voix nue, Guillaume Erner, cette semaine avec...
Bernard-Henri Lévy. Je suis écrivain, philosophe et je fais des films.
Deuxième épisode, une jeunesse littéraire. Nous retrouvons Bernard-Henri Lévy dans votre domicile parisien, Normal Sup. Votre arrivée donc dans ce qu'on présente comme étant un temple, là aussi, vous saviez ce que vous voulez faire, ce que vous vouliez devenir. Comment se sont déroulés, Bernard-Henri Lévy, vos premiers moments dans cette école ?
Je suis pas sûr, non, de savoir ce que je veux devenir. En tout cas, quand j'entre rue d'Ulm, je pense pas à devenir celui que je suis. Je suis révolté et studieux. Je suis révolté parce que ce sont ces années rouges du maoïsme français dont l'école normale est l'épicentre. Et même si je ne suis pas militant, je suis très proche de ça. Et puis en même temps, moi, ce qui me passionne, c'est les études grecques, les études latines, un commentaire de philosophie, retraduire un chant de l'Iliade. Voilà, je crois que dans ces années-là, je ne pense pas une seconde à écrire des livres de philosophie ou à écrire des livres de littérature, ni même en ce temps-là à parler en mon nom propre. D'ailleurs, la première chose que je fais, activité de public à laquelle je me livre, c'est pour le Nouvel Observateur, dans les années... juste après l'école normale, peut-être 70, 71, je ne sais plus. Première chose que je fais, c'est d'interviewer mes maîtres. Donc je fais pour l'Observateur une interview importante, je crois, de Michel Foucault. J'interviewe Jacques Derrida, j'interviewe Roland Barthes, une interview qui me semble-t-il a compté un peu, etc. Une interview de Raymond Aron. Mon métier à l'époque, si j'ose dire, c'est ça. C'est pas aller défendre la Bosnie ou aller plaider pour Israël ou pour l'Ukraine. Le maximum d'activités publiques que je m'autorise en ce temps-là, lorsque je sors de mes exemplaires de littérature grecque et latine, édition Budet, c'est d'aller interviewer Michel Foucault ou Roland Barthes. Donc je me vois plutôt à l'époque comme un savant austère, pour parler comme un poète.
Alors, donc, vos profs étaient à l'époque Althusser, peut-être en premier lieu, c'est celui avec lequel vous avez eu le plus d'échanges, le plus de proximité, Bernard-Henri Lévy ?
Althusser a été le professeur de quasiment personne. Ça, c'est une légende. Althusser, professeur, non, parce qu'il n'était pas là. Il était le titulaire du poste de Caïman à l'école normale. Caïman, c'était une sorte de maître d'études, supposé guider les normaliens sur le chemin d'agrégation, sauf qu'il était en hôpital psychiatrique l'essentiel de l'année. Et quand il sortait de l'hôpital, c'était pour aller se reposer à Gordes ou dans l'appartement qu'il occupait à l'école. Donc, je voyais Althusser. De temps en temps, je faisais partie des normaliens que je crois il avait plaisir à voir. Mais il n'était pas professeur. Il était d'abord totalement silencieux quand on le voyait, comme un analyste, plongé dans des pensées obscures, dont j'imaginais, moi, naïvement, que c'était des pensées sévères ou des pensées d'autorité. En vérité, c'était probablement un immense dégoût de la vie et un immense désespoir. Et il avait une façon de me fixer dans ce petit bureau du rez-de-chaussée de l'école. Il me fixait de ses grands yeux bleus, magnifiques d'ailleurs, avec ce grand front dégagé, la main dans ses cheveux, avec un air d'attention extrême dont je pense aujourd'hui qu'elle dissimulait un ennui absolu et une impatience de voir l'important que j'étais quitter sans délai son bureau et le laisser à son tourment. Donc c'était pas un professeur. Et la magie d'Althusser, le mystère, c'est que néanmoins, il a eu une influence immense. Parce qu'il n'a pas non plus écrit vraiment de livres. Les livres d'Althusser étaient des recueils d'articles, qui n'étaient d'ailleurs pas tous de lui. Lire le Capital, c'était un recueil d'articles dont l'essentiel était écrit par ses disciples, Macheret, Balibar, Rancière, je crois. Bref, le grand mystère, c'est comment cet homme qui ne disait rien, qui écrivait peu, et en tout cas qui n'a quasiment pas écrit ce qu'on appelle aujourd'hui un livre, a pu avoir une influence aussi déterminante sur une génération et sur moi. Voilà. Donc cette espèce d'influence sans contact, c'est un des grands mystères de ma jeunesse. Mais enfin, c'est ainsi, sans me parler. Il a façonné ma manière de penser, il a influé sur mon destin futur. Quand je suis parti, c'est le seul moment d'ailleurs où nous avons eu vraiment un rapport d'interlocution un peu approfondi. Il y en a eu un. C'est quand je suis parti au Bangladesh. J'ai passé une longue saison de ma vie Pakistan oriental qui était en train de se libérer et qui allait devenir Bangladesh. Là, j'ai eu des échanges avec lui parce que la raison d'être initiale de ce voyage, c'était une thèse de troisième cycle d'économie ou d'économie politique dont le patron était quelqu'un qui s'appelait Charles Bettelheim, qui est un économiste pro-chinois, maoïste, très proche d'Althusser. Et ça intéressait Althusser. L'idée que je puisse aller voir les maoïstes du Bengale, l'idée que je puisse aller voir s'il y avait des savants rouges, comme on disait à l'époque, dans le delta du Gange, l'idée que je puisse aller m'intéresser au concept de colonialisme interne à l'intérieur d'une même nation, d'un seul coup, ça l'a intéressé. Et j'ai le souvenir, septembre-octobre 71, je vois André Malraux, avec qui je prépare ce voyage, et je vois Althusser, que pour une fois, ça intéresse.
Et alors Malraux ?
Alors Malraux, très important dans ma vie, puisqu'il y a ce moment qui a, je crois, décidé de tout, au fond. Et alors là, pour le coup, de bien des choses que j'ai faites par la suite et que j'ai écrites par la suite, il y a ce moment où j'entends... Il y a cet événement, ces nouvelles à la télévision du génocide au Bangladesh, génocide dont on ne connaît pas les chiffres aujourd'hui encore, on ne sait pas si c'est 1 million ou 5 millions de morts. Et j'entends à la radio André Malraux, la voix déchirée, appelant à la constitution d'une brigade internationale pour Bangladesh, comme il l'avait fait bien sûr au moment de la guerre d'Espagne. Donc le vieux Malraux reprend son habit de colonel, et lance cet appel. Et moi, je vais le voir, à l'époque, à Verrières-le-Buisson. J'ai retrouvé trace de tout cela, qui est dans mon précédent film « Une autre idée du monde », la lettre que je lui ai écrite, notre rencontre, son côté colonel ratapoil, mobilisant une armée imaginaire et m'envoyant voir une espèce d'aide de camp improbable. Mais moi, je prends tout ça très au sérieux, et à son appel... Dans son ombre, croyant aller au-devant de son désir, je prends l'avion et je vais à Calcutta, puis à Jessore, puis à Khulna, puis à Dhaka, et voilà. Et puis c'est parti. Mais il n'y a pas eu de brigade internationale. Il y a eu quelques volontaires qui sont partis, mais rien d'organisé. Malraux était hors d'état. Lorsque, dans cette rencontre, d'ailleurs, j'avais été tout de même à la fois immensément impressionné par lui, immensément impressionné par la précision de sa démarche, mais en même temps assez effondré de l'état physique dans lequel il était. Et il avait eu cette phrase d'ailleurs à la radio, dont il me semble, disant « Je ne suis plus en état de piloter un avion, mais je suis encore en état de conduire un char », ou peut-être l'inverse, je ne sais plus. Donc voilà, tout ça me semblait glorieux, magnifique, et digne d'être soutenu par la parole et par le geste.
Mais ça, c'est un drôle de basculement pour un normalien, parce que, généralement, les normaliens peuvent faire une thèse sur l'économie du Bangladesh, mais rarement vouloir s'engager, en tout cas s'engager de cette manière-là, Bernard-Henri Lévy.
Oui, mais c'est l'époque tout de même où nous étions tous un drôle de mélange, de goût du savoir, de goût de la pensée, et puis en même temps de grande méfiance à l'endroit des savoirs abstraits et à l'endroit de l'académisme. C'était ça ces années révolutionnaires. Et moi, pour ce qui me concerne, j'avais une deuxième méfiance qui était là, en gros, la révolution pour rien. L'activisme sans objet, CRSSS dans les rues de Paris, tout ça me déplaisait.
C'est-à-dire, vous n'avez jamais eu de lien avec... vos camarades légèrement plus vieux, ceux qui avaient fait 68, cette période-là n'a pas été...
Si, bien sûr, ils sont à peine plus vieux. Non, c'est ma génération. Moi, j'ai 20 ans en 68, donc j'ai des liens avec le chef de la gauche prolétarienne, Benny Lévy, j'ai des liens avec Jean-Paul Delay. Non, bien sûr, j'ai des liens avec tous ces gens-là. Mais je n'arrive pas à prendre très au sérieux l'idée de faire la révolution en France. En revanche, quand j'apprends qu'il y a un génocide en cours, quand j'apprends qu'il y a des mouvements maoïstes en place, et quand j'apprends qu'il y a une perspective révolutionnaire au Bangladesh, là, ça m'intéresse. Et là, j'y vais. Et là, je décide de prendre les choses à bras-le-corps et de vivre la vraie vie.
Mais vous y allez en tant que militant, en tant qu'observateur, comme Malraux l'avait fait jadis. Comment définiriez-vous votre démarche ?
J'y vais d'abord en tant qu'observateur, écrire une thèse qui va devenir un livre, qui s'appelle « Les Indes rouges », qui a fini par exister. Et puis, lorsque le Bangladesh est libéré, c'est-à-dire à la Noël 71, là, non. Là, ce qui m'intéresse, c'est de faire. Là, je noue avec le premier président du Bangladesh, qui s'appelait Mujibur Rahman, un lien dont je me rends compte rétrospectivement qu'il n'est pas d'une nature très différente de celui que j'ai pu avoir avec le président de Bosnie, avec le chef du CNT en Libye, enfin, peu importe, cette espèce de lignée comme ça de chef de guerre ou de chef d'État naissant auquel je me suis intéressé, il est le premier. Donc je me lie à lui et je passe les premiers mois de l'année 1972 à Dakar et j'ai un poste de conseiller dans l'embryon d'un ministère de la planification. Et là, je fais des choses. J'aide, je crois aider en tout cas, je travaille à aider à la construction d'une nouvelle nation.
Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à cette époque, vous vous dites, Bernard-Henri Lévy, que vous allez rentrer à Paris soutenir votre thèse, vous allez rester au Bangladesh, vous allez
non,
faire quoi ?
Ça veut... Non, je pense que je suis là... que je suis là pour un temps indéterminé, que ce que je fais là me passionne et que je vais le raconter, que je vais l'écrire. Voilà, les deux à la fois. Donc j'écris ce premier livre et puis je fais mon travail. C'est le moment où il y a une tragédie absolue, la naissance des enfants des viols. Pendant toute la guerre de libération, les Pakistanais avaient utilisé le viol comme arme de guerre. À une échelle, je crois, jamais égalée, ni en Bosnie, ni ailleurs, pratiquaient cela, les viols. Et puis, arrive janvier, février, mars 72, les enfants naissent. Première réaction d'une société traditionnelle, souvent, les femmes en question sont tenues à l'écart et parfois mises au banc de leur famille. Moi, je suis de ceux qui soufflent au président Mujibur Rahman que cette mise au banc est injuste, que ces femmes méritent d'être honorées par la nation davantage et non pas méprisées. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est sans précédent dans une société musulmane, me semble-t-il. Le président Mujibur Rahman, sous l'influence de quelques-uns et peut-être un peu de moi, signe un décret et les appelle « birangona », qui veut dire littéralement « héroïne de la nation ». Et dans les moments les plus beaux de ma vie, il y a 2 ans, je retourne au Bangladesh, 50 ans après. C'est dans mon film « Une autre idée du monde ». Et la fille de Mujibur Rahman, qui s'appelle Sheikh Hasina, qui a mon âge, que j'ai croisée à l'époque, qui est la première ministre actuelle du pays, réunit des birangonas de l'époque. Ces anciennes jeunes filles que je retrouve, avec lesquelles nous échangeons des souvenirs sur cela, sur ce moment inouï dans l'histoire d'une société de ce genre, où d'un seul coup, des femmes qui ont subi la plus atroce des humiliations se voient rendre leur honneur et leur fierté. Voilà. Et ça, pour moi, vous voyez, 50 ans après, c'est un des moments les plus bouleversants de ma vie. Et j'ai été saisi par une émotion extrême. Et tout cela est dans ce film, tout ce retour au Bangladesh a été, et dans Une autre idée du monde. Et pour moi, c'est très important. Donc voilà, tout ça pour dire que dans ces mois-là, ce qui m'intéresse, c'est d'écrire, bien sûr, mais c'est aussi ça.
Les autres professeurs, les autres mentors, Bernard-Henri Lévy, il y a eu Barthes, il y a également eu Foucault. Comment ont-ils compté pour vous ?
Foucault, beaucoup. La barbarie visage humain était un livre qui se mettait sous la double autorité de Lacan et de Foucault. La pensée lacanienne du manque et de la loi, et la pensée foucauldienne des micro-pouvoirs et de la résistance, Et puis, cette phrase qu'il m'avait confiée dans un de ces entretiens que je faisais dans ma jeunesse, à savoir que la vraie question de notre temps n'était plus de savoir si la révolution était possible, mais si elle était désirable, phrase totalement révolutionnaire, si j'ose dire, à l'époque, tout ça a beaucoup compté pour moi. Et la barbarie, elle est l'enfant naturel de Michel Foucault et de Jacques Lacan, donc très important. Donc voilà, pour moi, la révolution qu'opérait Foucault dans la pensée de l'époque, la manière dont il commençait, sans le dire au sens où André Glucksmann et moi-même allions le dire, à rompre avec le marxisme, tout ça est évidemment décisif. Derrida, c'est autre chose. Derrida, il m'a probablement appris à lire. Le vrai inventeur de ce que Althusser appelait la lecture symptomale, sonder un texte, le lire avec un marteau, pour parler comme Nietzsche, creuser dans la chair du mot pour en découvrir la pulpe et éventuellement le dépulper. Cette lecture-là, c'est Derrida qui était l'artiste de ça. Les séminaires, alors là, pour le coup, il se tenait vraiment, les séminaires de Derrida à l'École normale, pendant les 3 années où j'étais à peu près assidu, si tant est qu'on pouvait l'être à l'époque vraiment, c'est ça qui m'a appris. Et j'ai fait d'ailleurs mon premier travail un peu académique sérieux. C'est un travail de lecture comparée de la naissance de la tragédie de Nietzsche et du théâtre et son double d'Antonin Artaud. Texte disponible, je l'ai exhumé, il est publié sur le site de La Règle du Jeu. J'avais prononcé ça au séminaire de Derrida. Donc c'est l'époque où on pouvait, en effet, rue d'Ulm, travailler des mois sur 2 textes, les mettre en relation, les faire se parler, et y consacrer des heures entières de monologues devant un petit groupe de normaliens qui s'intéressaient vraiment à tout ça. Quoi, j'ai l'impression de parler d'un monde disparu, mais c'était comme ça.
Avons-nous oublié d'autres noms qui ont compté pour vous, Bernard-Henri Lévy, à l'époque ?
Non, les noms importants, vraiment, je crois que c'était ceux-là. C'était Althusser, Derrida, parce que c'était mes maîtres, et puis c'était Lacan. Lacan a compté beaucoup, même si je n'ai pas eu de relation personnelle avec lui. Mais je me souviens, dans les années 66, 67, 68, jusqu'à son expulsion de l'École normale, par les CRS, il me semble d'ailleurs, sur décision du directeur, il tenait séminaire à l'école. C'était avant que je ne sois normalien. J'étais encore en cagne, en hypocagne. Je pouvais sécher un examen blanc. Je n'aurais manqué pour rien au monde un séminaire de Lacan. Et c'est l'époque où il fallait arriver des heures en avance, parce que c'était dans la plus grande salle de l'école, la salle du SAN, mais les auditeurs extérieurs comme moi arrivaient 2-3 heures avant, bloquaient une place ou demandaient à quelqu'un de la bloquer pour eux, branchaient un magnétophone, il y avait une forêt de magnétophones devant lui. Pour moi, c'était une immense affaire.
Pourquoi ?
Parce que j'avais le sentiment que la pensée française était en train de se réinventer. Parce que, avec Lacan, ce qui était intéressant, c'est qu'on était au confluent de 2 choses. Le plus neuf de la pensée française, c'est-à-dire le structuralisme, l'héritage de Ferdinand de Saussure, de Roman Jakobson, de la linguistique, de la parentèle de Lévi-Strauss, d'un côté, et puis de l'autre côté, la pensée la plus excitante pour moi, qui était le surréalisme. Lacan, c'était le structuralisme plus le surréalisme. Il était de la famille de Georges Bataille, d'André Masson, et même de Salvador Dali, par un pan de sa vie. Et puis, il était de celle de ces grands abstracteurs devant l'éternel qui étaient les structuralistes. Donc, le croisement des deux, l'étincelle entre les deux, avait quelque chose d'absolument enivrant. Et on avait le sentiment, je ne sais pas, que devaient avoir les étudiants de Hegel à Iéna, enfin, que la pensée se remettait en mouvement. Au fond, quand on écoutait Lacan, plus que Foucault, plus que Derrida, parce que Foucault et Derrida avaient pris leur parti du décret hegélien que la philosophie était finie. OK ? Lacan, non. Il recommençait la philosophie, même s'il appelait pas ça la philosophie, mais enfin, c'est comme ça. Il la faisait repartir. Et ce démenti vivant à l'annonce hegélienne, on arrête, on ferme, et on commente avec quelque chose d'exaltant. Quand on était chez Derrida, on commentait Artaud, on commentait Nietzsche, on commentait Maurice Blanchot, on découvrait Emmanuel Lévinas, on faisait du Talmud avec la philosophie. Quand on était chez Foucault, on était à la croisée de la nouvelle histoire et de la pensée. Foucault, il décrivait des blocs de ce qu'il appelait les épistémés, c'est-à-dire les nœuds de discours qui commandent ce que nous disons lorsque nous parlons. Il ne le disait pas parce que ça se faisait pas, il n'était pas assez surréaliste pour ça. Évidemment qu'il faisait repartir la pensée dans un autre sens. Mais celui qui osait dire « je suis la vérité, je parle », depuis la prosopopée de la vérité de 56 ou 57, c'était Jacques Lacan.
Les nouveaux philosophes, c'est le terme que vous avez inventé, qu'on vous a accolé, Bernard-Henri Lévy.
Non, je l'ai inventé, mais je l'ai inventé sans avoir la moindre idée des... Ça fait partie de la beauté de la vie, c'est quand il y a des malentendus. Je me rappelle, j'avais rassemblé mes copains de l'époque, Jean-Marie Benoît, Dominique-Antoine Grisoni, Jean-Paul Dolé, Guy Lardreau, dans un numéro spécial des Nouvelles littéraires, que m'avaient demandé à l'époque Philippe Tesson et Paul Gilbert, qui étaient respectivement directeur et rédacteur en chef du journal. Donc un dossier sur ce qui compte dans la jeune pensée française. Et je me souviens, c'est le jour du bouclage, Paul Gilbert est à l'imprimerie, on n'a pas de titre. Je dîne au Balzar avec ma fiancée de l'époque, celle qui allait devenir la maman de mon fils, Sylvie Bouscas, et je suis là, et Paul Gilbert me téléphone, il dit « Écoute, mon coco, vous trouvez un titre ?» Bon, je trouve des titres, la relève, la fronde, les titres absurdes. Aucun de ces titres ne me va, je ne sais même pas quel est le dernier d'ailleurs, mais je crains le pire. Et puis à 1h moins le quart du matin, avant la fermeture du Balzar, et avant probablement que le journal ne parte à l'imprimerie, je rappelle Paul Gilbert affolé, en lui disant « Écoute, tous ces titres ne me plaisent pas, sois gentil, trouvons un titre plat, celui dont on est certain qu'il ne sera pas repris, parce que tout ça m'angoisse trop, on va appeler ça les nouveaux philosophes, et au moins on est sûr que c'est tellement mauvais, tellement nul, que personne ne le reprendra. » Il me dit « Écoute, je veux bien, ton titre est absolument nul, mais puisque tu me le demandes, faisons-le. » Et vous connaissez la suite.
Ce terme-là, il désigne quoi, Bernard-Henri Lévy ? Est-ce qu'il désigne une gauche critique de la gauche ? Un parti intellectuel, bien sûr, antitotalitaire, comment vous le définiriez ?
Il désigne à l'époque deux choses. Un, les porte-voix des dissidents. Les dissidents russes de l'Empire soviétique n'avaient pas droit de citer dans la pensée française ni dans la politique française. Ils se faisaient foutre dehors par Giscard d'Estaing quand ils venaient frapper à l'Élysée. Donc, un, prise de parti pour ces femmes et pour ces hommes qui défiait l'Empire soviétique. Et deuxièmement, c'était en effet une critique de gauche du marxisme et du progressisme. Il y avait deux manières de critiquer le marxisme. Première manière, c'était dire « Oulala, les marxistes, ça crée le désordre et ça fait la révolution ». Ça, c'est ce que j'appellerais une critique de droite. Puis la critique de gauche, elle disait « Oulala, le marxisme, l'inverse, école d'ordre ». Instrument de servitude, meilleure manière de faire entrer les flics dans la tête des gens. C'était notre position. On ne trouvait pas que le marxisme était révolutionnaire, on trouvait qu'il n'était pas assez. On pensait que c'était une école de discipline. C'était ça, les nouveaux philosophes. Et le progressisme, pareil. Parce que la vraie cible des nouveaux philosophes, je crois, c'était le progressisme en général. Il y a deux manières de critiquer le progressisme. Il y a la manière spenglerienne, décliniste, c'était mieux avant, on va revenir aux sociétés archaïques, etc. Les pires horreurs pour moi. Il y avait une autre manière qui était la nôtre, qui était de dire halte à la pensée paresseuse. Halte à l'idée qu'il y a tellement un sens de l'histoire, qu'il y a tellement un progrès évident, qu'il n'y a rien à faire. Il y a juste à s'endormir, comme disait, je crois, Sartre sur la banquette arrière de l'histoire, et attendre d'arriver au terminus. On disait non. Critique de gauche du progressisme, ça voulait dire il y a du boulot. Il faut se battre, il faut agir. L'histoire peut aller dans un sens comme dans l'autre, et il appartient aux humains d'aider à l'accoucher d'un sens souhaitable et meilleur pour l'humanité. Et c'était ça que nous pensions.
Mais alors, du coup, vous avez pratiquement toute la gauche contre vous, Bernard-Henri Lévy, puisque donc la gauche marxiste ne pouvait pas évidemment embrasser cette vision des choses sans pour autant avoir la droite avec vous.
Exact. La droite a cru probablement au début qu'il y avait quelque chose à faire avec ces jeunes gens qui déboulaient comme ça sur la scène des idées en disant « le marxisme, ça va plus ». Mais elle a très vite compris que l'idée n'était pas de revenir à des pensées de discipline, mais au contraire de fracturer la plus efficace des pensées de discipline. Et quant à la gauche, je me suis jamais enfin, ça dure jusqu'à aujourd'hui. Parce que ça a marché, les nouveaux philosophes, au fond. Je dis pas que tout ce que nous disions, André Glucksmann, Christian Jambet et moi, était neuf. Bien sûr que tout n'était pas neuf. Il y avait des choses qui avaient déjà été dites par d'autres, à commencer par les dissidents. Mais en revanche, ça a été entendu. Les livres se sont vendus, les émissions de télé avaient du succès, tout ça a fait le tour du monde.
On pourrait dire effectivement que les nouveaux philosophes, c'est tout d'abord le parti pris des dissidents, le parti pris des droits de l'homme, puisque c'était un discours nouveau, et un discours également antitotalitaire de gauche. Est-ce que c'est de cette manière-là qu'on pourrait résumer vos combats ?
Oui, on peut dire ça. Enfin, antitotalitaire jusqu'au bout. C'est-à-dire, c'était l'idée, en effet, qu'on ne pouvait pas être un hémiplégique de l'antifascisme et de l'antitotalitarisme, et que il convenait d'être aussi implacable face aux dictatures rouges que face aux dictatures brunes, même si elles n'étaient pas les mêmes. Et au fond, d'ailleurs, moi, l'effort que j'ai fait personnellement, et André Glucksmann, je crois aussi, d'ailleurs, à l'époque, c'était, en bon foucaldisme, de faire la bonne distribution entre ce qui faisait se ressembler, ce qui faisait se séparer, les deux totalitarismes. Nous échappions à l'idée fausse que c'est pareil. D'abord, il n'y a pas de précédent ni de succédant à l'hitlérisme. C'est un phénomène absolument singulier, comparable à aucun autre. Mais en même temps, évidemment qu'il y a des points communs. Donc ce à quoi nous travaillions, c'était voir ce qu'il y avait de commun entre le stalinisme et l'hitlérisme. Ou aujourd'hui, d'ailleurs pour moi, entre le stalinisme, l'hitlérisme, l'islamisme radical. Et tous les totalitarismes d'aujourd'hui, et toutes les volontés de pureté, le vrai enjeu, c'est de savoir qu'est-ce qu'elles ont de singulier, chaque fois, et puis ce qu'elles ont aussi de commun. Il faut penser les deux à la fois. Et c'était ça le geste des nouveaux philosophes, déjà.
Avec, là aussi, mais vous l'avez signalé, une matrice qui est commune, finalement, à l'ensemble de vos actions, c'est-à-dire à la fois avoir l'ambition de décrire et évidemment de critiquer, mais aussi l'ambition d'avoir une action, une influence sur la politique, l'histoire en train de se faire, Bernard-Henri Lévy.
Oui, parce que moi, je vous ai dit tout à l'heure que mes deux admirations de jeunesse, au fond, et les deux personnages fondateurs, c'est Malraux et Althusser, mettons. Hein ? Tous les deux sont des écrivains, des grands prosateurs. Mais l'un est un homme d'action aussi, et l'autre est un théoricien aussi. Voilà. Ben moi, je suis à mi-chemin des deux. Donc, évidemment que j'ai toujours eu à cœur jusqu'à aujourd'hui d'écrire des livres, d'essayer de penser bien, aussi puissamment que j'en ai les moyens, et puis d'agir. Moi, j'admire Lamartine et j'admire Byron. Lamartine qui dit « Si j'avais pas été marié, je serais parti en Grèce », mais qui écrit les plus beaux poèmes de son temps. Et j'admire Byron, qui est vraiment parti en Grèce, qui a vraiment levé une armée. Donc voilà, moi, c'est vrai que j'ai marché toute ma vie sur ces deux jambes-là.
Merci beaucoup, Bernard-Henri Lévy. À demain. C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Hervé Dubreuil, réalisation Félicie Faugère, une série de Guillaume Erner à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.